Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Les droits humains, c'est le sujet du jour, un sujet forcément d'actualité dans la mesure où c'est ce mercredi même que le bureau d'Amnesty International au Mali a présenté à la presse son rapport 2014-2015. Alors, que dit ce rapport? Est-il un peu plus optimiste que le document de 2013-2014 en matière de respect des droits de l'homme? Que représente l'Afrique et spécifiquement le Mali à ce jour? À ces questions et à bien d'autres vont tout à l'heure répondre nos invités qui sont au nombre de trois. Le troisième va nous les rejoindre plutôt au téléphone. Alors, ceux qui sont dans le studio, c'est d'abord Saloum Traoré, il est le directeur exécutif d'Amnesty Mali. En second lieu, nous avons Drissa Traoré, lui, il est chargé du programme de l'AMDH, FIDH. Et nous aurons donc Maître Brima Kone que nous viendrons. C'est Maître Brima Kone, donc, que nous viendrons au téléphone. Il est le président d'honneur de l'AMDH, en même temps président de l'Union interafricaine des droits de l'homme. Le Grand Dialogue de ce mercredi 25 février 2015 donc vous est présenté par Seydou Foma, auditrice, auditeur, bienvenue.
Studio Tamani.
Je vous le disais, les droits humains, il en est question dans cette émission. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on rappelle à nos auditrices et auditeurs ce qu'il faut entendre par droits humains. Alors, nous allons poser la question peut-être à Maître Brima Kone, il est en ligne. Brima Kone, vous nous entendez?
Oui, je vous entends.
Alors, dites-nous pour nos auditeurs, comment définir les droits humains?
De façon très simple, les droits humains sont des droits inhérents à la nature de l'homme. Donc, chaque homme dispose de ses droits parce que simplement, il est homme. Donc, il y a beaucoup de droits qu'on peut citer. Le droit à la vie, le droit à la santé, à l'éducation, au logement décent, et aussi plusieurs libertés, comme la liberté d'opinion, la liberté de travail, la liberté d'aller et venir, etc.
Alors, c'est ce qu'il faut donc comprendre par droit humain. Alors, oui. Vous suivez certainement l'actualité avec nous. Amnesty International vient de rendre public son rapport 2014-2015. Que faut-il retenir de ce document? Je crois que nous allons poser la question en premier lieu à Saloum Traoré, le directeur exécutif d'Amnesty International Mali.
Merci bien. Je commence par saluer les auditeurs et aussi mon fils qui est très loin de moi, M. Kone. Je lui dis bonsoir. Je pense que pour ceux qui ont suivi ce matin, nous avons malheureusement dit que le rapport de cette année a été encore plus noir que le rapport de l'année dernière. Et le rapport de cette année prévoit malheureusement encore, si les choses ne changeaient pas, si le cours des choses ne changeaient pas, encore des lendemains encore plus noirs en matière de droits humains. Donc c'est en fait ce que nous avons essayé de présenter ce matin. Et nous avons dit que les gouvernants essayent de dire que les problèmes des droits humains, ce n'est pas leur problème. De manière indirecte, c'est ce qu'ils nous disent. Ils sont beaucoup plus préoccupés par des courses pour des postes.
Mais à les entendre en public, c'est parce que nous croyons savoir que nous pensons qu'ils sont plutôt préoccupés par cette situation.
Bon, là, il y a un petit bémol que j'allais marquer, c'est que nous avons la chance au Mali d'avoir des autorités qui ont leur leitmotiv maintenant en matière de droits humains. Autrement dit, toutes les autorités maliennes, quand ils prennent la parole, ils commencent par parler des droits humains. Ce qui est très bien pour notre avis, mais seulement nous leur demandons d'aller un peu plus loin et d'être plus pratiques. C'est-à-dire que nous avons déploré que on parle trop des droits humains, mais on ne pratique pas les droits humains.
Saloum Traoré, je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur la situation qui concerne concrètement le Mali. D'accord. Nous allons maintenant demander à Drissa Traoré. Drissa Traoré qui est le chargé de programme à l'AMDH, FIDH. Je crois savoir que vous aussi, vous savez quelque chose du contenu du rapport qui vient d'être publié. Et quelle lecture vous faites de ce contenu?
Okay. Merci beaucoup. Je salue d'abord les auditeurs et les auditrices. et tous les militants des droits de l'homme. On dirait bien droits humains, parce que les notions évoluent. Alors, et je crois que c'est une tradition pour Amnesty International de publier chaque année un rapport qui accable quand même plusieurs pays. Et je veux dire les pays dans lesquels il y a eu des graves violations des droits de l'homme. Je crois que le Mali fait partie. Donc pour nous, c'est une opportunité d'avoir des institutions, je veux dire des organisations qui sont en mesure d'alerter l'opinion nationale et internationale sur la gravité des manquements aux droits humains. Donc les rapports de Amnesty, je crois bien, a été fait dans ce sens. Donc voilà, c'est important pour nous de s'en approprier pour continuer effectivement à défendre les droits humains.
Si toutefois Maître Brahima Kone est en ligne, nous allons lui aussi lui demander d'apprécier le contenu du rapport publié ce matin. Maître Kone?
Oui.
Alors nous parlons du rapport d'Amnesty International, publié un rapport qui concerne donc les droits humains à travers le monde. Alors si vous avez pu jeter un coup d'œil sur ce rapport, quelle lecture en faites-vous? Qu'est-ce que vous en dites?
Je suis parfaitement d'accord avec la teneur de ce rapport qui traduit de façon fidèle ce qui se passe aujourd'hui de par le monde, les atrocités commises par-ci et par-là, et surtout en Afrique. Franchement, le rapport a été très exhaustif, mais très accablant parce que ça traduit le degré des crimes, degré de gravité des crimes perpétrés de par le monde, et un rapport qui interpelle aujourd'hui la communauté internationale et tous les dirigeants, surtout ceux de l'Afrique, pour faire en sorte que nous puissions prendre des dispositions afin que l'impunité ne puisse pas perdurer, parce que ça traduit à mon avis, que l'impunité est en train de s'installer avec force de par le monde, et surtout en Afrique.
Alors, nous revenons donc dans ce studio. Vous l'avez dit, Maître, Saloum Traoré, qui est le directeur exécutif d'Amnesty International Mali, vous l'avez dit, le rapport est sombre. Le rapport publié pour la période 2013-2014 était pessimiste, celui-là semble plus sombre. Dites-nous alors, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer?
Il y a lieu vraiment de s'alarmer, parce que dans ce rapport-là, vous voyez, il y a sur les 160 pays qui ont été concernés par l'enquête d'Amnesty International, il y a au moins 35 pays qui ont connu des crises très 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 violentes cette année, avec un nombre incalculable de morts. Donc, il faut dire que le rapport est vraiment très, très accablant. Mais il y a quand même une petite avancée dans la production de ce rapport. Parce que pour la première fois, nous nous adressons directement aux cinq pays les plus forts du monde pour leur demander d'accepter. Pour les causes qui sont extrêmement graves, par exemple des violations qui font appel des violations des droits humains dans le sens de violation du droit international humanitaire, ou bien les crises graves, de faire en sorte qu'ils puissent mettre leur veto de côté. Donc ça c'est important et nous pensons qu'ils vont nous écouter. Parce que nous avons vu que dans beaucoup de pays, la crise a été exacerbée par le fait qu'eux, ils n'ont pas voulu, en temps normal, pendant le temps du conflit, ils n'ont pas voulu accepter de mettre un peu leur veto à côté. Et quand toute la communauté internationale a voulu trouver une solution, l'un d'eux vient dire, bon, nous, moi, je ne suis pas d'accord et j'ai mon droit de veto, donc je ne suis pas d'accord. Ce qui fait que ça a contribué vraiment à augmenter le nombre de morts, le nombre de décès. Et nous pensons que, très certainement, s'ils ont accepté de mettre leur veto de côté, quand il y a une crise grave humanitaire de ce genre, ça va diminuer le nombre de morts.
Alors, les pays, des pays sont certainement cités. Dites-nous maintenant, parmi ces pays cités, est-ce qu'il y a beaucoup de pays africains?
Je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, parmi ces pays, il n'y a aucun pays africain, parce qu'il s'agit des cinq pays les plus puissants. Il s'agit de la Chine, de la France, des États-Unis, etc.
Oui, oui, là, il s'agit des puissances auxquelles vous vous adressez. Exactement. Mais dans votre rapport, le document publié, au bas du tableau, certainement, il y a des pays qui figurent. Je voudrais savoir si les pays africains sont nombreux, cités en mauvais exemple dans ces documents.
Évidemment, évidemment, évidemment. Et nous avons beaucoup de pays africains qui ont été cités. Et plus particulièrement, je vais commencer d'abord par le Mali, hein, qui a été cité. Ensuite, il y a le Rwanda, il y a le Nigeria, il y a l'Angola, etc. etc. Donc, vraiment, il y a beaucoup de pays africains qui ont été cités.
Idrissa Traoré, qu'est-ce que cela vous dit de voir beaucoup de pays africains cités dans ces documents?
Oui, je crois que cela n'est pas surprenant de par effectivement la gouvernance dans nos pays. Je crois que les droits de l'homme sont intimement liés aussi à la gouvernance. Et souvent, je crois bien savoir que les déficits de démocratie ou les déficits de gouvernance entraînent plusieurs violations des droits de l'homme. Parce que l'État, si effectivement il y a... On en réside dans un pays, effectivement, des cas de mal-gouvernance. Il va de soi que cette mal-gouvernance soit effectivement une cause des conflits récurrents qui sont partout en Afrique.
Alors, Saloum Traoré, vous l'avez dit, le Mali donc est cité parmi les pays africains qui sont dans ces documents. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement au pays, au Mali donc?
Bon, on reproche au Mali que... Il y a eu une lenteur exagérée dans le traitement des dossiers concernant les violations qui ont été commises dans le nord du Mali, aussi bien que les violations qui ont été commises à Bamako à l'occasion du putsch militaire. Donc on trouve que les victimes attendent et les victimes n'ont pas satisfaction et les victimes ne comprennent pas du tout. Est-ce que vraiment les gens sont sensibles à ce qui leur est arrivé? Alors donc, c'est un peu surtout sur ça qu'on a trouvé que le Mali est en train d'encourager l'impunité, parce que quand les gens ont eu à faire des violations graves et qu'on n'arrive pas à les juger, eh bien, on ne comprend pas. Surtout que nous avons tous été témoins de la libération que nous avons beaucoup déplorée des juges islamiques de Tombouctou et de Gao. Donc, ça fait que le rapport, en tout cas, reproche au Mali d'avoir été extrêmement laxiste dans le traitement de ce dossier.
Maître Brima Kone est en ligne. Alors, Maître Kone, êtes-vous d'accord avec les conclusions d'Amnesty International dans son rapport, Amnesty, qu'il y a des choses graves à reprocher au Mali?
Je suis tout à fait d'accord avec Amnesty, comme vient de le dire Saloum. C'est vrai, il y a eu beaucoup de crimes qui ont été perpétrés au Mali, au nord comme au sud, mais rien ne bouge malgré les efforts déployés par les organisations des droits de l'homme que vous avez présentes devant vous, Amnesty, l'AMDH et bien d'autres qui se sont évertués à documenter les crimes et à saisir les juridictions. Mais rien ne bouge. Et nous pensons qu'il n'y a pas une réelle volonté politique de faire droit à la justice. Et surtout que les négociations politiques sont en cours. Aujourd'hui, on a l'impression que les autorités ne veulent plus entendre parler de justice, alors que on voit par-ci, par-là, des séminaires souvent qui sont organisés pour parler de justice traditionnelle. Mais dans les faits, on a l'impression que les autorités traînent les pieds. Et voilà pourquoi j'apprécie les conclusions fortes faites par Amnesty International à l'égard du Mali.
Sidio Tamani, il est 18h30.
Vous écoutez Sidio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Sidio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Nous abordons donc la deuxième partie de ce grand dialogue. Nous étions en train de parler déjà du Mali. Nous allons continuer sur cette lancée. La situation des droits de l'homme, ça pose donc au problème au Mali. En a-t-il été toujours ou est-ce tout cela le résultat de la profonde crise qui traverse le pays? Je pose donc la question à Driss Traoré, le chargé de programme de la MDH, FIDH.
Ok. Je crois que si nous considérons la situation du Mali pendant la crise, nous avons toujours dit que la situation est critique. Mais il y a eu tout le temps des violations des droits de l'homme, que ce soit en temps de crise ou en temps de paix. Mais à l'heure actuelle, on met un accent particulier sur les violations commises pendant la crise. Donc, notamment à partir du 17 janvier 2012 jusqu'à maintenant, parce qu'il y a des, c'est vrai que les violations ont stagné, mais il y a des cas isolés qui se passent. Maintenant, on s'intéresse beaucoup, effectivement, aux procédures judiciaires. Et parce que nos différentes organisations, comme Maître Brahima l'a dit, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et nos organisations ont documenté plusieurs cas de violations des droits de l'homme pendant cette crise. Donc, il y a eu des cas d'amputation, des exécutions sommaires, des viols massifs, collectifs. Et nous avons compris effectivement qu'il faille demander à l'État son devoir, disons rappeler à l'État son devoir d'assumer effectivement ses rôles, effectivement en permettant aux victimes d'accéder à la justice. Et quand les premières procédures judiciaires ont été ouvertes en juillet 2012, bien sûr, avec la saisine de la CPI aussi, nous étions très contents parce que pour nous, c'est des avancées considérables. Et c'est là où ces avancées ont continué avec les inculpations des auteurs présumés des crimes qui ont été commis au Sud. Saloum en a parlé, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et cependant, à partir de juillet 2014, donc, notamment à travers les différentes libérations que j'ai qualifierais d'extrajudiciaires, nous avons assisté quand même à un recul, parce que tout simplement, nous avons pensé que les droits des victimes sont en train d'être ignorés, effectivement, et au profit d'un accord politique et pour lequel nous ne savons pas si, effectivement, tous les Maliens sont d'accord sur le contenu. Et en tout cas, la position de nos organisations, notamment la FIDH et la MDH, c'est de permettre au Mali, disons, c'est de plaider pour un accord de paix durable. Un accord durable, c'est celui qui respecte les droits des victimes à la vérité, à la justice, à la réparation.
Alors, le tableau que vous venez donc de peindre est un tableau assez noir. Mais dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas, ne serait-ce que quelques points de satisfaction en matière de respect des droits de l'homme au Mali?
Oui, bien sûr, on peut pas, comme Saloum l'a dit aussi, on peut pas nier l'évidence. Il faut aussi reconnaître tous les efforts qui ont été fournis par l'État. Donc j'avais parlé tantôt de l'ouverture des procédures judiciaires, j'avais aussi parlé des différentes inculpations, notamment dans les différentes affaires dans lesquelles les militaires sont impliqués, notamment à Bamako Kati. Donc pour nous, c'est des avancées. Il y a aussi la saisine de la Cour pénale internationale en juillet, bien sûr avec l'appui de nos organisations. Tout ça, c'est des avancées. Mais après, nous avons assisté quand même à un recul qui continue à perdurer, et à travers notamment les différentes libérations. Et nous avons une grosse crainte et quand nous suivons effectivement les négociations à distance, et nous avons une crainte, cette crainte est fondée parce que nous craignons beaucoup qu'il y ait des accords d'amnistie en faveur des auteurs présumés des violations graves des droits de l'homme. Et nous savons aussi pertinemment que dans un pays en sortie de crise, il y a des arrangements politiques. Mais nous estimons que ces arrangements politiques ne doivent pas aussi effectivement violer les droits des victimes à la justice, à la vérité.
Alors la situation des victimes, nous en parlerons un peu plus tard. À présent, la question que je vais poser concerne la pression. Vous êtes tous vous appartenez à des organisations alors, qui luttent pour le respect des droits humains. Dites-nous, est-ce que vos organisations disposent de moyens de pression pour faire peut-être fléchir à tel ou tel niveau l'autorité malienne? Je crois que nous allons demander à Saloum Traoré, le directeur exécutif d'Amnesty International, de se prononcer sur cette question.
Oui, bien sûr, je dirais oui, bien sûr. Vous savez, nous, notre force, c'est notre bic et aussi notre bec. Je mets ça entre guillemets, quoi. Ça veut dire que quand nous parlons, on nous écoute. Ce n'est pas par amour, mais c'est par respect pour le travail que nous faisons, pour la rigueur que nous mettons dans notre travail, pour le sérieux que nous mettons dans notre travail. Alpha Omar Konaré nous avait reçu une fois à Koulouba et il nous a dit, bon, vous savez, Amnesty International, tout ce que vous dites, je prends ça au sérieux, même si je ne suis pas obligé d'être d'accord avec vous. Donc, nous avons effectivement une pression et à travers le monde entier, les États ont tous du respect pour les défenses des droits humains, pour les organisations de défense des droits humains. Parce que, vous savez, hein, même les plus sanguinaires parmi les gouvernants, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui leur dit qu'ils travaillent mal. Donc, alors que nous, nous avons décidé justement de mettre la lumière partout où il y a ces violations-là. Donc, au Mali, pas plus que il y a quelques 2 à 3 mois maintenant, vous avez vu la grande marche que nous avions organisée et cette grande marche a produit énormément d'effets. Nous avions depuis quelques temps déjà avant cette marche, nous avons envoyé un peu partout des demandes pour qu'on nous reçoive, pour discuter un peu de la situation des droits humains au Mali. Mais tenez-vous bien, le lendemain de la marche des arts, nous avons été reçus dans tous les grands milieux du Mali. Donc ça veut dire que ça c'est une force, c'est une pression. Nous sommes organisés et j'ai l'honneur aussi de le dire ici, c'est que M. Traoré, aussi bien que tous les défenseurs des droits humains du Mali, ont accepté de me désigner comme leur président. Donc je suis le président du réseau des défenseurs des droits humains. Et c'est ce réseau justement que nous avons mis en branle. Et toutes nos grandes organisations étaient présentes et sont encore de ce réseau. Et le réseau est ouvert pour d'autres adhésions. Il y a 32 organisations là-dedans. Si nous marchons aujourd'hui ou si nous levons la voix, c'est très sûr que nous allons être écoutés. Parce qu'ils savent que c'est pour du sérieux seulement que nous levons la voix. Nous ne sommes pas là du tout pour distraire les gens.
Nous allons tenter de joindre Maître Brahima Kone. Alors dites-nous, Maître, est-ce que les organisations de défense des droits de l'homme au Mali ont suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir influencer la situation?
Je pense que oui. Je pense que oui, parce que c'est des organisations assez matures, bien organisées. Aujourd'hui, il y a un réseau en place, comme le dit Saloum, un réseau qui constitue un véritable cadre de concertation, de rencontres pour les actions communes par rapport aux violations des droits de l'homme. Donc, ils ont une large marge de manœuvre, mais surtout, ces organisations ont une certaine crédibilité au regard de l'opinion publique nationale et internationale. Donc, c'est des organisations qui sont bien écoutées à tous les niveaux. C'est pour cela, lorsqu'il y a des mouvements, et immédiatement, les autorités publiques essaient de réagir. Pour vous donner un exemple, lorsqu'il y a eu la crise malienne, c'est grâce à ces organisations que d'abord, on a pu même avoir certains éléments qui ont pu servir de base à la saisine de la Cour pénale internationale par l'État du Mali lui-même. Donc ce sont les organisations de défense des droits de l'homme qui ont d'abord proposé ça à l'État et l'ont accompagné à faire en sorte que ce travail puisse être achevé. Et à d'autres niveaux, chaque fois que l'État est entendu au niveau sous-régional ou au niveau international, ces organisations ont la possibilité de se faire entendre aussi pour apporter la contradiction s'il le faut, ou en tout cas apporter la clarification par rapport à ce qui se passe au Mali. Donc je pense que c'est les organisations qu'il faut respecter.
Alors Drissa Traoré, vous êtes le chargé de programme de l'AMDH FIDH au Mali. C'est vrai qu'on parle beaucoup des droits de la femme, des droits des enfants. Est-ce que le Mali, par rapport à beaucoup de pays africains, aurait vraiment eu à faire beaucoup de progrès dans ces domaines?
Alors, le bilan est mitigé, vous conviendrez avec moi. Je sais que Maître Brahima, mon petit esclave, il est d'accord avec moi sur ce sujet. Et parfois, on avait senti des améliorations, mais bon, aujourd'hui, s'il faut faire un bilan, je dirais que le bilan est mitigé. Parce que tantôt, il y a des améliorations, mais à côté aussi, il y a du recul. Et moi, je ne veux pas rentrer dans les détails des différents textes qui sont effectivement pendants devant, soit devant l'Assemblée nationale ou dans les différents ministères. Ces textes sont bloqués. Et souvent, c'est des textes qui consacrent aussi les droits des femmes et c'est les enfants. Et nous nous battons aujourd'hui pour une participation accrue des femmes, je veux dire accrue, mais aussi qualitative des femmes aux différents instants de décision. Je crois que cela passe et surtout par le respect de leurs droits.
Sinon, des femmes ministres, il y en a eu assez au Mali, même plus que dans certains pays beaucoup plus démocratiques, entre guillemets.
Oui, oui, chaque pays, effectivement, a ses réalités. Mais si nous devons nous référer aux différentes conventions internationales et traités ratifiés par l'État du Mali, et nous estimons qu'il y a encore du progrès à réaliser. Et je ne pourrais pas m'en passer de parler de toutes les violations des droits de l'homme commises à l'égard des femmes pendant la crise. Aucune procédure spéciale n'avait été ouverte contre les viols et les autres formes de violences sexuelles commises pendant la crise. N'eût été la saisine par nos organisations, la saisine de la justice, à travers une plainte au nom de 80 victimes, femmes et filles, dans les régions qui étaient jadis occupées par les groupes armés. Donc, à ce niveau, il y a beaucoup de choses à faire. Les progrès ont été réalisés, mais il y a encore des choses à faire dans ce domaine-là.
Droit de la femme, droit des enfants, nous allons nous adresser à Saloum Traoré. Dites-nous, y aurait-il donc un décalage entre le discours et la réalité?
Vous l'avez dit, il y a vraiment un espace extrêmement large et qui grandit malheureusement entre le discours et la réalité. Et j'ai bien l'habitude de le dire au Mali, ce qui m'étonne beaucoup, c'est surtout cette dichotomie, ou disons plutôt, je ne sais même pas, cette dualité, et avec un Mali qui ratifie tous les textes, chaque fois qu'il y a un texte international qui doit aller dans le sens des droits humains, eh bien les Maliens sont prêts à ratifier. Et maintenant, quand il s'agit de la pratique, personne ne veut être responsable. Vous voyez qu'en parlant du droit des femmes, en parlant du droit des enfants, eh bien, le Mali n'a pas accepté du tout de respecter ses responsabilités, ses engagements par rapport aux conventions qu'il a eu à signer par rapport aux femmes, par rapport aux enfants. Il y a juste une semaine, je me suis rendu dans un lieu de détention où j'ai trouvé des enfants. Et ces enfants, ils sont là-bas depuis un peu longtemps. Ça fait la troisième fois que je rends visite à ces enfants. Et les autorités me disent simplement qu'ils ne sont pas sûrs que c'est des enfants. Parce qu'ils n'ont pas présenté de papier, d'acte de naissance. Et qu'actuellement, le processus qui est en place, c'est qu'il faut qu'il y ait un juge qui vienne avec des experts pour déterminer leur âge. Et là, ça fait déjà 3 mois, comme l'a dit. Je continue toujours à visiter ces enfants en prison et ils sont là.
Mais est-ce qu'il ne faudra pas d'abord déterminer leur âge avant de se décider par rapport à leur destination, non?
En fait, c'est peut-être ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Mais en réalité, ça fait plus d'un an maintenant que ces enfants sont dans la même cellule que des adultes. Et pas n'importe quel adulte. Il s'agit de ceux-là qui ont égorgé, ceux-là qui ont tué dans le Nord. Ce sont ces gens qui sont en prison ici et ils sont dans la même cellule que ces enfants. C'est vraiment déplorable. Moi, j'avais demandé simplement qu'on transfère ces enfants-là à Boulé puisque c'est des enfants. Mais on m'a dit que non, il faudrait justement qu'on détermine leur âge, etc., etc. Il se trouve d'ailleurs qu'il y a une convention qui a été signée entre le Mali, entre Serval, entre l'armée malienne Serval et les autorités, la gendarmerie, comme quoi, chaque fois qu'on arrête les enfants et qu'on les amène, on doit d'abord les considérer comme des victimes. Parce que c'est des gens qui n'ont pas opté pour aller faire la guerre. Donc, c'est des victimes. La seule chose à faire, c'est de les libérer. Il y a certains qui sont vraiment délabrés. Au lieu de les libérer simplement, il y a l'UNESCO qui est là, qui a aussi accepté de signer cette convention avec les forces armées pour pouvoir reprendre ces enfants-là et leur donner l'assistance psychologique nécessaire avant de les remettre aux parents.
Il est 18h45 à Bamako. Dans un instant, la suite de ce débat.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Dernière ligne droite de ce débat, nous allons à présent nous intéresser à deux termes, l'impunité et la réconciliation, deux mots beaucoup employés ces derniers temps ici au Mali. Alors, comment gérer la question de l'impunité et de la réconciliation? Il y a peut-être le souci de ne pas passer les crimes impardonnables, il y a aussi celui de se pardonner. C'est une équation difficile, non? Nous allons demander à Maître Brahim Akone qui est en ligne.
Oui, c'est une équation qui paraît difficile, mais nous, à notre avis, il faut savoir appliquer les principes qu'il faut en la matière. Dans le cas du Mali, nous avons connu des crimes d'une extrême gravité, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, qui sont considérés au regard du droit pénal international comme étant des crimes imprescriptibles. Donc, dans le cadre de la réconciliation, nous pensons qu'il faut d'abord faire face aux questions de justice, établir l'historique des faits, qui a fait quoi. Lorsque les résultats sont établis, que les auteurs soient traduits en justice, s'agissant de crimes graves, que réparation soit faite aux victimes et faire en sorte aussi que l'on évite de telles atrocités en avenir. Bon, donc dans ce cadre-là, on peut concilier le besoin de justice avec les exigences de paix et de réconciliation. Mais lorsqu'on veut s'asseoir sur le concept de justice pour faire en sorte que prévale juste la réconciliation et la paix, comme l'a dit mon petit-fils Drissa Traoré, une paix conquise dans ces conditions ne serait que précaire. Donc pour que la paix soit durable, il faudrait d'abord rendre justice et dignité aux victimes, procéder aux réparations qu'il faut. Donc dans le cadre d'une réconciliation nationale, il y a des infractions qui ont été commises et qui peuvent certainement faire l'objet de négociations, mais ça c'est vraiment quelques petites infractions. Mais s'agissant du crime d'une certaine gravité, des exécutions sommaires, des amputations, et autres, je ne pense pas que l'on puisse fermer les yeux là-dessus. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons beaucoup tiré la sonnette d'alarme face à ces négociations qui ont lieu à Alger, alors pour que l'aspect justice n'échappe pas du tout aux négociateurs.
Alors, nous allons maintenant nous tourner du côté de Drissa Traoré. Rendre justice aux victimes, est-ce que des actions concrètes sont en cours au Mali pour que cela soit une réalité?
Merci beaucoup pour cette pertinente question. Et je crois que les actions, il faut les voir à deux niveaux. Donc les actions effectivement réalisées par l'État et les actions réalisées par la société civile, notamment les organisations de défense des droits de l'homme. Quant aux actions réalisées par l'État, donc nous avons tantôt parlé de la saisine de la CPI, nous avons parlé de l'ouverture des procédures judiciaires dans certains cas, et même si nous avons déploré aussi des faiblesses. Et en gros, ça, c'est des actions réalisées par l'État. Je ne vais pas oublier non plus les différentes inculpations. Donc voilà, ça c'est à mettre à l'actif de l'État. Et s'agissant des actions réalisées par nos organisations, je crois que nous avons essayé de contourner un déficit de volonté politique. Et parce que tout simplement, nous avons vu que plusieurs victimes n'étaient pas en mesure de saisir la justice nationale. Et c'est pourquoi nous avons décidé de les assister en leur apportant une assistance judiciaire et juridique. Donc à ces jours, la MDH et la FIDH accompagnent plusieurs victimes de la crise, que ce soit les victimes des événements qui se sont produits ici à Bamako-Kati, mais aussi les événements, surtout les événements du Nord. Donc pour nous, c'est une réponse. Et une autre action, toujours dans le cadre des affaires du Nord, et comme vous le savez, aucune enquête n'a été menée par les différents juges d'instruction qui sont chargés de ces affaires-là. Et alors que nous savons l'ampleur des crimes commis au Nord, et face à ce déficit, nous avons fait venir certaines victimes pour qu'elles soient écouté et entendu par les juges. Je pars sous le contrôle de Maître Brema, qui est le coordinateur du pool d'avocats des victimes. Donc voilà, nous avons fait venir des victimes à nos moyens pour qu'elles soient entendues par le juge, parce que la justice n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Et tout récemment, le 12 novembre, nous avons déposé une plainte au nom de 80 femmes, victimes de viols et d'autres formes de violences sexuelles pendant la crise au Nord. Donc pour nous, c'est des réponses effectivement adéquates aux besoins de la justice. Parce que nous avons tout le temps dit, et nous allons continuer à les rappeler, et pour que nous ayons cette réconciliation qui nous est chère, et il convient d'apporter une réponse équitable et adéquate aux besoins de justice. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont soif de cette justice. Il faut donner un exemple pour éviter la perpétration des crimes dans le futur.
Saloum Traoré, qui êtes le directeur exécutif d'Amnesty International Mali, que pouvez-vous préconiser pour qu'après tout ce qui est arrivé dans ce pays, tout ce qui s'est passé, pour qu'on aboutisse à une véritable réconciliation?
Bien, moi je pense que je vais peut-être commencer par le quatrième pilier de la justice transitionnelle. Parce que pour ce qui concerne, pour le problème que nous avons, que le Mali a eu à vivre, il faut forcément une justice transitionnelle.
En deux mots, vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'il faut entendre par justice transitionnelle.
Voilà. Bien. Bon, la justice transitionnelle, comme son nom l'indique, c'est une justice de transition. C'est-à-dire que nous sommes partis de la paix à une zone de turbulence et nous devons retourner à la paix. Donc, entre-temps, maintenant, eh bien, on adopte la justice transitionnelle pour pouvoir juger les violations massives qui ont eu à être commises. La justice traditionnelle, avec sa lenteur, avec tout ce que ça comme procédure, est incapable de pouvoir venir à bout de tous les cas qui ont été commis pendant le temps, et ça va prendre énormément de temps si on devait continuer comme ça. Mais la justice transitionnelle inclut aussi la justice traditionnelle, c'est-à-dire que les deux ne s'excluent pas et l'autre ne s'arrête pas pour que l'autre intervienne, mais c'est ensemble que ça se fait, avec le bonheur qu'avec la justice transitionnelle, eh bien, il n'y a pas de prescription.
Je crois que vous parliez justement à ce sujet des quatre piliers.
Oui, j'avais déjà parlé du premier pilier. Bon, et le deuxième pilier, le premier pilier, c'est le droit à l'information, le droit à la vérité. Le deuxième pilier, c'est le droit à la justice elle-même. Le troisième pilier, c'est les réparations. Et le quatrième pilier, et c'est là encore un pilier extrêmement important, ça, c'est le domaine des réformes. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait une garantie que cela ne se produira plus. Et pour ça, il faudrait que l'État engage en profondeur des réformes. Et ces réformes ont déjà commencé au Mali. Il y a des réformes dans le secteur de l'armée, des réformes dans le secteur de la justice, des réformes à tous les niveaux. Et c'est avec ces réformes-là que des nouvelles lois vont être adoptées pour que désormais on ne puisse plus retomber encore à une situation, à la situation que nous avons connue pendant ces années.
Alors, vous aboutissez tous les trois au même constat. La situation en matière de droits humains reste donc préoccupante. Mais je voudrais vous poser la question suivante. On dénonce depuis des années les raisons, parce que je crois qu'il faut voir le problème en amont. Le constat est là, mais les raisons sont aussi là. On dénonce depuis des années le trafic d'armes, par exemple, qui est d'ailleurs considéré comme une raison qui constitue en quelque sorte le carburant de pas mal de crises. Il y a des déclarations de bonne foi. La mobilisation, est-ce qu'elle ne fait pas défaut?
La mobilisation?
Oui.
Vous voulez dire, est-ce que...
On en parle, et après?
Bon, je pense que là, il y a eu beaucoup de mobilisation, et parce que nous savons que les armes sont utilisées pour c'est comme de l'essence pour pouvoir faire marcher la machine de la guerre. Et nous pensons que s'il y a moins d'armes, il y aura peut-être moins de guerre. Mais nous savons aussi qu'à ce niveau, il y a eu beaucoup de progrès, puisque nous avons désormais le TCA. Le TCA, c'est le traité contre la prolifération des armes, le traité sur le commerce des armes. Il s'agit de faire en sorte que les armes puissent suivre une voie que tout le monde connaît. Autrement dit, avec un traité comme nous l'avons eu maintenant, ça a été déjà signé le 24 décembre dernier, ça a été ratifié, eh bien avec ce traité, les armes ne vont être achetées que par des États. Donc, on a la chance alors en ce moment-là de ne pas avoir les armes dans les mains de gens qui vont faire des violations massives avec. Les rébellions, les groupes armés, etc., etc., vont difficilement avoir des armes. Et nous sommes très heureux que ce soit, il y a au moins 5 pays parmi les grands producteurs d'armes qui ont accepté aussi de ratifier cette convention. Donc ça fait que nous allons voir que avec cette convention, il y aura certainement moins de morts, moins de victimes.
Alors, il nous reste à peu près 2 minutes. Nous allons essayer de joindre Maître Brahima Kone. Alors, Maître, dites-nous, est-ce qu'il peut y avoir des mesures préventives efficaces contre les différentes formes de violation des droits de l'homme?
Bien sûr que oui. Il s'agit de mettre en place des systèmes. D'abord, il y a la sensibilisation. Il faudrait que les citoyens soient sensibilisés, que ceux qui sont chargés d'appliquer la loi soient sensibilisés, mais il y a aussi la formation des citoyens tout comme de ceux qui exercent la loi. Notamment, je veux parler des porteurs d'uniformes qui sont la main de la justice, la police, la gendarmerie, etc., qui, sans jeter le discrédit sur qui que ce soit, qui sont en tout cas les premiers à violer les droits de l'homme. Donc ça, c'est des moyens préventifs à mon avis, mais également mettre en place un système d'alerte précoce qui puisse faire en sorte que l'on puisse prendre des mesures avant même que des violations n'aient lieu. Merci. Donc ça, voilà. Il s'agit de mécanismes qu'il faut mettre en place.
Merci. Voilà, merci, Maître Brahima Kone. Deux mots. On va terminer donc avec Monsieur Drissa Traoré. En deux mots juste. Okay. Vous, le chargé de vous avez le mot de la fin.
Rapidement, je voudrais dire que notre mobilisation doit se focaliser davantage sur la réponse à la crise et sans pour autant oublier effectivement les causes ou les racines du mal, notamment la corruption, la malgouvernance de façon générale. Et voilà, donc je vous remercie pour cette initiative.
Nous voici donc au terme de votre émission Le Grand Dialogue de ce mercredi 25 février 2015. Je vous rappelle que la question débattue, c'était les droits humains. On prit part au débat 3 invités: Saloum Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International Mali, Drissa Traoré, chargé de programme AMDH-FDH, Maître Brahima Kone, FIDH. Il est d'ailleurs le président de l'Union interafricaine des droits de l'homme, président d'honneur de l'AMDH. Cette émission vous a été présentée par Seydou Fomba, à la mise en onde, il y avait Peting Diarra, et à la régie vidéo, c'est le jeune Ouattara. On se retrouve donc très prochainement.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Libero.
Halou de Mouni.
Chen Libero.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.